considère que les assises du socialisme, c'est le confluent où se rejoignent des fleuves. Qui avait raison et d'où venait la source, l'histoire le dira. Mais je vous en prie, mes chers camarades, justifiez cet effort. Le fleuve va vers la mer. Quel est cet océan? Des hommes libérés au travail.
La voix, vous l'aurez reconnue, de François Mitterrand. Pour commencer cette émission avec vous, Benjamin Stora, ça vous a presque surpris.
Oui, bien sûr, parce que normalement, on doit parler de 68. Et c'est et vrai après. Que là, et après, et là, vous démarrez directement par François Mitterrand. Après tout, pourquoi pas?
Bon, parce qu'on a à la après fin de ces commémorations, 68 et après. C'est le titre de votre essai, Benjamin Stora, qui se penche sur ce que vous appelez ces héritages égarés de cette révolution politique et sociale qu'on a commémoré pendant tout ce mois pour un 50e anniversaire, qui a marqué une forme de rupture, hein, ou au moins une évolution dans la lecture des événements, à la fois en étendant sa portée en dehors de Paris ou au-delà des jeunes intellectuels du quartier latin dont vous faisiez partie, mais aussi en présentant la mémoire d'un événement intime ancré dans une époque et une trajectoire personnelle. C'est dans cette veine, en quelque sorte, que s'inscrit votre essai, cette trajectoire personnelle, et vous tirez le fil de vos premiers engagements trotskistes à l'Organisation communiste internationale, l'OCI, jusqu'au Parti socialiste dans les années 80, d'où la voix de François Mitterrand, qui est un personnage important de votre essai. Acteur puis observateur de l'évolution de la gauche française, vous portez aussi le regard d'un jeune juif algérien immigré à Sartrouville, en banlieue parisienne, pour le professeur d'université devenu inspecteur général de l'éducation nationale et du conseil d'orientation de la cité nationale de l'histoire de l'immigration, on découvre que l'intégration est passée par la contestation politique. C'est une idée importante, peut-être centrale, on y reviendra je pense tout au long de cet entretien, mais il faut peut-être s'expliquer là-dessus, sur cette rencontre finalement entre la nécessité de s'intégrer, la volonté d'intégration et par la contestation, c'est-à-dire en remettant en cause les institutions et du pays dans lequel vous vous trouvez, Benjamin Stora.
Oui, bien sûr, on parle souvent beaucoup d'intégration, mais l'intégration, c'est souvent aussi par la conflictualité, par le désaccord, par la dispute, par l'affrontement, et pas simplement par la découverte merveilleuse et magnifique des principes de la République, mais c'est aussi le fait de s'approprier la République de manière très personnelle, subjective, y compris peut-être avec des volontés de revanche. Notamment, je pense à mes parents dans cette histoire, qui sont arrivés d'Algérie en 62 et qui avaient connu une sorte de chute sociale assez vertigineuse, habitant, vous l'avez dit, dans une cité ouvrière à Sartrouville, avec ma mère devenant ouvrière d'usine, ce qui est quand même extraordinaire dans sa trajectoire, puisqu'elle était une femme de la tradition juive de Constantine. Elle s'est retrouvée ouvrière d'usine, vous voyez comme quoi les clichés quelquefois qu'on a sur ceux qui venaient d'Algérie ne sont pas tout à fait conformes à la réalité.
Mais vous l'aviez raconté dans les trois exils notamment.
J'avais déjà évoqué rapidement cette question-là. Mais là, effectivement, vous avez raison de souligner que 68, c'est la découverte aussi d'une autre France. Il y a plusieurs Frances et celle-là était beaucoup plus solidaire, fraternelle. C'était celle qui m'ouvrait dans le fond les portes et c'était une France qui décidait enfin de me parler.
Qu'est-ce que vous vous disiez avant 68 dans votre tête par rapport à la société française et qu'est-ce que vous êtes dit ensuite lorsque vous avez fait ce mouvement, ce basculement dans l'engagement et donc dans l'intégration de la société?
Benjamin Stora.
Alors c'est compliqué parce que la France d'avant 68, c'était la France que j'avais connue enfant en Algérie, à Constantine. Donc c'était une France aussi très mythologisée, très rêvée, très abstraite. Une France du cinéma, c'était les années 50, la France de la mode, de la nouvelle vague, de la musique, du rock'n'roll, de Johnny Hallyday, de 1960. Cette France qu'on voyait de loin, dans le fond, hein, et qu'on aimait, qu'on admirait, etc. Eh bien, cette France-là, après 62, c'était plus la même chose. C'était une France inhospitalière, froide, qui voulait qu'on gomme absolument nos accents, et qu'on s'adapte, qu'on s'intègre, qu'on s'assimile, en d'autres termes, très rapidement. Donc c'était encore une autre France qu'on découvrait, une France lointaine. Et c'était pas évident. Et donc il y a une autre France, j'allais presque dire une troisième France qui est apparue devant mes yeux, c'est celle de l'après 68, c'est-à-dire cette France où je retrouvais d'ailleurs beaucoup de jeunes juifs ashkénazes cette fois-ci, qui étaient révolutionnaires, descendants de parents communistes, des années 45-50, survivants de la Shoah, et qui étaient très engagés politiquement à gauche, très à gauche, et qui m'ont fait découvrir d'ailleurs, à l'époque j'avais 17 ans, 20 ans, et qui m'ont fait découvrir ce qu'était le génocide juif que je connaissais par bribes, puisque j'appartenais à un autre monde juif, évidemment. Et donc ça a été aussi cette découverte à la fois de cette France qui avait souffert sous Vichy. C'était la grande époque de la bataille pour la reconnaissance des crimes de Vichy dans les années 70. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'était pas quelque chose d'évident. Donc il y avait à la fois la découverte d'une France solidaire et fraternelle, mais d'une France qui avait aussi dissimulé son passé.
J'évoquais en introduction de l'émission, Benjamin Stora, l'évolution de la perception de l'événement mai 68, de la révolution de 68, en parlant notamment de la possibilité d'aller voir en dehors de ce qui s'est passé en dehors de Paris. Je pense évidemment à l'ouvrage de Ludivine Bantini, paru au Seuil très récemment, et aussi une approche plus personnelle. Alors là, c'est quelqu'un avec qui vous seriez plutôt en opposition, qui est Jean-Pierre Le Goff, qui a été gauchiste, révolutionnaire, qui a fait mai 68, mais qui ensuite s'est éloigné, porte un regard assez critique sur l'événement.
Le regard est moins critique dans son dernier livre.
Dans son dernier livre, La France d'hier, qui en effet, parce que peut-être il passe par l'intime. Et justement, je voulais poser la question sur aujourd'hui la possibilité, peut-être 50 ans après l'événement, de passer par ce biais de l'intime. C'est un livre 68 et après que vous publiez donc aux éditions Stock dans la collection Un ordre d'idées. C'est un livre où vous vous livrez aussi de façon assez intime sur vos parents, sur une histoire tragique, personnelle, avec la maladie de votre fille. Ce sont des choses qui, c'est pour montrer que l'engagement politique, il passe aussi, il touche la totalité d'un individu.
Alors c'est vrai qu'il y a la possibilité, à travers un récit historique, de parler de soi et de son intimité, mais il y a aussi le fait d'une crise de l'engagement politique quand on parle beaucoup de soi. Parce que pendant très longtemps, j'ai pensé en écrivant « nous » et très peu « je ». Il y avait « nous pensons que », »,« nous avançons », »,« nous décidons ». C'est-à-dire les années 70 et le début des années 80, il n'y avait pas la possibilité, ou très faiblement, la possibilité d'expression d'une personnalité intime. Par exemple, en militant tout au long des années 70, je ne savais pas que mes camarades de combat étaient fils de généraux, de banquiers. Moi, j'étais fils d'ouvrier. Mais les différences sociales d'origine étaient totalement gommées. Pourquoi ? Parce qu'on parlait de manière collective. Donc on était dans une famille collective où chacun, disons, n'existait pas vraiment par rapport à son origine. Ce qui était à la fois un avantage, on a parlé tout à l'heure de l'intégration, donc c'était un avantage ça, mais aussi un inconvénient. Parce qu'il y avait des dissimulations, il y avait des trajectoires et des parcours sociaux et culturels qui étaient très différents les uns par rapport aux autres.
Là, vous parlez de l'OCI, de la période OCI.
Oui, c'est la période où j'étais.
Qu'est-ce qui se passait ? Parce que les jeunes aujourd'hui ont du mal à se dire qu'est-ce qui se passait dans cette organisation communiste internationale. Qu'est-ce que vous aviez comme projet ? Tout était un peu secret. Vous étiez. Racontez-nous un petit peu quel était le climat.
Si je raconte ça, on va mettre des heures. Mais en deux mots.
En quelques mots.
C'était une. J'utilise le mot d'ailleurs dans cet ouvrage. C'est une petite armée, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire des quelques milliers de personnes. Jeunes relativement, entre 20 et 30 ans, et qui fonctionnent de manière très soudée, très homogène, où on pense presque tous la même chose, on a les mêmes lectures, références.
Qu'est-ce que vous pensez ?
Pardon ?
Vous pensez que la révolution est en cours, que vous êtes les acteurs de cette révolution ?
Oui, absolument. Il y a une conception quasi messianique dans cette histoire, bien entendu. C'est-à-dire le fait que la révolution était inéluctable. Je veux dire, l'État allait s'effondrer, les partis traditionnels, le PC en particulier, est très puissant, on l'a oublié, qui était le premier grand parti de France, des centaines de milliers d'adhérents, avec la CGT bien sûr. On pensait que ces organisations-là appartenaient au vieux monde et que tout allait s'effondrer et qu'une recomposition générale allait s'opérer, notamment par l'intermédiaire des luttes sociales. Donc c'était effectivement la période dite, comme on l'appelait à l'époque, de l'imminence de la révolution.
C'est aussi une période où vous avez, comment dire, où on croit à cette idée d'avant-garde. C'est ce que le trotskisme pense, qu'il y a une avant-garde. Vous êtes à l'avant-garde de cette révolution imminente et vous découvrez Benjamin Stora, en quelque sorte, cette tension entre une approche très verticale, autoritaire du militantisme et ce moment de mai 68 qui est aussi un moment beaucoup plus libertaire, beaucoup plus ouvert. Et c'est une tension qu'on retrouve souvent dans les discours de ceux qui ont milité à cette époque-là. On sent que certains étaient plutôt du côté de l'organisation de cette idée d'avant-garde et d'autres ont vécu mai 68 peut-être et les années 70 plus du côté libertarien ou libertaire plutôt faudrait dire.
Alors pendant très longtemps, moi c'est ma conception que je vous livre là, pendant très longtemps on a vu 68 beaucoup avec l'aspect libertaire, libertarien, festif, hippie, etc. On a très peu vu dans le fond l'aspect sombre aussi, organisé, structuré, dogmatique, entraînant des dizaines de milliers de jeunes dans l'aventure politique. Ça a été assez peu dit. Vous avez cité tout à l'heure quelques personnages, Jean-Pierre Le Goff ou autres, mais il y en avait d'autres, la gauche prolétarienne, la Ligue communiste, etc. Il y avait au bas mot, je le dis dans mon ouvrage, j'ai fait un décompte, entre 20 et 30 000 jeunes qui étaient embarqués dans cette histoire. Ce n'était pas simplement quelques centaines de types très dogmatiques enfermés à l'école normale supérieure, pas du tout. Vous aviez effectivement 20 à 30 000 jeunes extrêmement déterminés, extrêmement décidés, et puis avec une rage et une colère et la possibilité, oui, je l'ai dit aussi dans l'ouvrage, qui était très structurée, très encadrée, mais chez certains d'entre eux, il y avait cette espèce de fascination de la violence qui existait parmi toutes ces organisations. Moi, je me souviens, par exemple, de l'extrême violence que nous avions lorsqu'on a essayé de prendre le Palais des Sports en 1971, c'était un meeting d'ordre nouveau, la violence était terrible. La violence était extrême, elle était très organisée aussi, très préméditée et préparée. Bien sûr, la mutualité 1973, bon là c'est la Ligue communiste qui a été dissoute, la gauche prolétarienne c'est aussi, s'était lancée dans des aventures comme ça très dures. C'est-à-dire qu'on a oublié, derrière l'aspect très festif et libertaire de 68, on a oublié en fait les risques et les dangers de passage au terrorisme qui ont existé dans la société française, comme ça a pu être le cas en Italie ou en Allemagne.
Oui, mais justement, il n'y a pas eu ce passage à l'action violente, au terrorisme. Je me souviens de Roland Castro, qui faisait partie aussi de cette histoire. Lui, il dit c'est grâce à Lacan qu'on n'est pas passé à la violence. Voilà, c'est son interprétation personnelle. Quelle est votre interprétation à vous ?
Oui, j'en parle aussi, mais il y a plusieurs hypothèses possibles, il n'y a pas de certitude là-dessus, mais il y a plusieurs hypothèses. D'abord, il y a le fait que l'Allemagne et l'Italie ont été des sociétés qui ont connu le fascisme et le nazisme pendant de très longues années, hein, et qui ont pénétré la société. L'Italie fasciste a duré très longtemps, presque 20 ans, l'Allemagne nazie plus de 15 ans, etc. C'est-à-dire qu'on a une imprégnation par la société de l'autoritarisme, de la dictature et de ce qu'on a appelé le fascisme. Ce qui n'a pas été le cas de la France, qui n'a pas connu, disons, cette longueur, cette installation, hein, cette imprégnation. Ça, c'est un premier aspect. Mais il y a un deuxième aspect, c'est que il faut pas sous-estimer la force d'encadrement, disons, de la société par les gaullistes et les communistes, qui sont les héritiers de la résistance après 45 et qui structuraient complètement la vie sociale et culturelle française et qui, quelque part, ont empêché, entravé cette possibilité du passage au terrorisme. C'était les héritiers de la résistance, les gaullistes et les communistes se partageaient le pouvoir politique dans ce pays. C'est dans le fond ce que nous vivons aujourd'hui en 2018, c'est la fin de ce partage. Depuis très longtemps, ce partage a fonctionné. Le Parti Socialiste a ensuite pris le relais du Parti Communiste et on avait une UMP qui avait pris le relais du gaullisme. Donc on était encore dans ce partage politique pendant très longtemps. C'est ça qui a volé en déclin en 2017.
Et vous dites que, heureusement, vous n'avez pas pris le pouvoir à ce moment-là, dans votre livre.
Oui, parce qu'effectivement...
Vous auriez instauré un régime...
Je ne sais pas ce qu'on aurait pu instaurer, mais il y avait des idées quand même. On portait une idéologie quand même, qui était l'idéologie qui conduisait à l'installation des systèmes de partis uniques, qui était quand même très, très rigide et très dogmatique. Il y avait beaucoup d'affrontements aussi à l'intérieur des organisations d'extrême-gauche pour une volonté d'hégémonie politique, c'est-à-dire d'installer l'hégémonie, donc le refus du pluralisme politique dans le fond, qui était très fort. Donc les pratiques sectaires, bien entendu, toutes ces questions-là ont été, dans le fond, assez peu débattues lorsque le souffle de 68 a disparu et que le Parti Socialiste est arrivé au pouvoir. On a peu fait l'examen, l'analyse, disons, de cet engouement extraordinaire des jeunes qui n'étaient pas des adorateurs du communisme stalinien, mais qui voulaient créer un autre communisme. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas des adorateurs de l'Union soviétique, voire même de la Révolution rouge, enfin au sens chinois du terme, mais qui avaient dans l'esprit de créer une sorte de paradis modèle inaccessible. Et ils étaient nombreux à croire ça. Très nombreux.
On va en arriver à cette création du Parti Socialiste au congrès d'Épinay au début des années 70, puis on va dire au passage, au transfuge des trotskistes au milieu des années 80. Mais le Parti Socialiste, avant 68, dans les années 60, il est encore très marqué, justement, surtout pour vous, j'imagine, Benjamin Stora, par l'épisode Guy Mollet, par la guerre d'Algérie. Qu'est-ce que ça représente, la SFIO, à l'époque? Et voilà, et peut-être nous raconter aussi cette évolution qui vous a amené de la SFIO à finalement aller jusqu'au Parti Socialiste.
Bah, la SFIO, on la connaissait pas dans les années 70. Hein. Dans ma génération, ça n'existait pas, la SFIO. C'était un appareil très lointain de notables, de provinces, qui organisait des banquets républicains, très très décollé de la société et de la jeunesse surtout. Hein. C'était très loin de la jeunesse. Et puis il y a eu effectivement, et vous avez eu raison de commencer par ce discours de 74, et puis il y a eu l'arrivée effectivement d'abord des partisans de Michel Rocard, puis derrière la CFDT, le féminisme, l'écologie, les luttes des immigrés, etc. C'est-à-dire que cette SFI aussi lointaine devenait un parti socialiste ouvert à la société. Et là, ça a commencé à nous intéresser. C'est-à-dire qu'on savait que c'était par là que ça bougeait, que ça pouvait fonctionner, qu'il y avait la possibilité de quelque chose. Et dans le fond, progressivement, tous les acteurs de l'après 68 ont commencé à regarder vers le Parti Socialiste dès avant la prise du pouvoir de 80, dès avant. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des gens qui progressivement ont commencé à rentrer dans le Parti Socialiste, tout de suite après aussi bien sûr. Et donc il y avait, disons, cette illusion d'un Parti Socialiste moderne, ayant rompu totalement avec la SFIO, avec des pratiques tout à fait nouvelles et n'appartenant pas à l'histoire classique, disons, de cette SFIO, par exemple, qui s'était affrontée à la grève de 47 des mineurs, ou bien sûr la guerre d'Algérie en 56, etc. Pour nous, c'était quelque chose de réglé. Il y avait eu une autre organisation, et à l'époque, il y avait un modèle. Le modèle, je parle des années 80, par rapport au Parti Socialiste, ce modèle, c'était le Brésil, avec Lula. Il y avait le Parti des Travailleurs qui se constituait à cette époque-là, et la possibilité pour les militants d'extrême-gauche de rentrer dans un Parti des Travailleurs nouveau, socialiste, et donc d'y créer un espace à gauche pour transformer la société. C'était à peu près l'idée qui régnait, qui flottait dans les airs.
Mais quand même, vous veniez donc de l'OCI, et vous arrivez dans le Parti Socialiste, nouveau Parti Socialiste, mais quand même encore un parti traditionnel, peut-être considéré comme bourgeois d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui a été transformé dans votre état d'esprit. Est-ce que vous vouliez faire de l'entrisme au départ? Est-ce qu'au départ, ça a commencé par dire « on va aller dans ce parti » avec Cambadélis, par exemple, je pense. « On va aller dans ce parti pour, précisément, avoir un appareil à notre disposition » ou est-ce que c'était pas tout à fait ça?
On avait une culture de l'entrisme, effectivement, parce que ça fait partie de l'histoire du trotskisme des années 30, hein, lorsque Trotsky décide de rentrer dans la SFIO en 35, 36, 37, etc. Il y a cette culture politique. Mais derrière cette phraséologie de la culture politique, il y avait aussi le passage d'une génération à une autre et l'entrée dans la vie sociale et le fait de passer au réformisme réel et ne plus rester cantonné au dogme, c'est-à-dire le fait d'être quelque part impuissant face aux transformations de la société. Donc, et l'argumentation de l'entrée-entrisme, en fait, à mon avis, c'est une justification a posteriori. En fait, il y a un décalage dans les générations et dans la société qui fait que, dans le fond, on a la possibilité, pourquoi pas, de construire quelque chose à l'intérieur de cet espace. Ce en quoi il y avait une illusion. Et là, j'ai découvert que, dans le fond, la vieille SFIO n'avait pas disparu.
On va arriver à cette illusion. Donnons peut-être quelques noms pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec cette histoire du trotskiste et du trotskisme, du lambertisme notamment. Il y a Lionel Jospin, évidemment, Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Luc Mélenchon. Des profils quand même assez différents qui ont évolué différemment et qui marquent, et ce qui marque selon vous cette évolution, quoi, la perte de repères de la gauche, du Parti Socialiste, des circonstances qui ont fait que chacun a évolué politiquement très très différemment.
Alors moi, Lionel Jospin, je ne l'ai pas connu à l'OCI. Honnêtement, c'était un personnage qui faisait autre chose, qui était dans des structures politiques qui n'étaient pas les miennes. Moi, j'étais un militant, comme on pourrait dire aujourd'hui, ouvert, quoi, public. Je m'en cachais pas, je diffusais, etc. Il y avait d'autres militants dans des organisations, comme le Parti Socialiste, à partir de 1974 notamment, qui ne se montraient pas. Voilà. Donc moi, je connaissais pas l'existence de Lionel Jospin. Je l'ai découverte, dans le fond, après, une fois que je suis rentré au Parti Socialiste. Mélenchon, je l'ai très peu croisé, parce que c'était un personnage de province. Il militait à Besançon, donc c'était un provincial qui quelquefois montait à Paris effectivement dans des réunions nationales et que j'avais pas particulièrement remarqué, étant moi-même membre de la direction, il n'était qu'un militant, donc moi je le remarquais pas, donc j'avais pas repéré, disons, de qualité particulière. J'ai commencé à le côtoyer après coup, c'est-à-dire lorsque moi-même je suis rentré pour quelques années au Parti Socialiste, c'est là que j'ai découvert effectivement ce qu'était Mélenchon. Alors là, par contre, Jean-Christophe Cambadélis, Julien André, etc., eux avaient à peu près le même parcours que moi. On avait à peu près le même âge, c'est-à-dire qu'il y avait les mêmes types d'engagement politique, cette façon de parler, le côté tribun, la passion des idées aussi. Parce qu'il y avait tout ça quand même, la passion de la lecture du livre. On lisait un nombre de livres absolument invraisemblables. Je le dis parce que j'ai été obligé de déménager ma cave récemment. Parce que j'ai changé, j'ai déménagé. Mais alors, il y avait les œuvres complètes de Lénine, de Trotsky, de Marx. Ça faisait des centaines de livres, évidemment. On était des boulimiques. Et je pensais à ça en regardant tous ces livres, en me disant, mais c'est incroyable tout ce que j'ai pu lire, disons, durant toutes ces années.
Qu'est-ce que vous en avez fait de ces livres maintenant? Vous les gardez pour vos enfants?
Non, je ne sais pas garder. On ne va pas s'attarder là-dessus, évidemment.
La grande table, Raphaël Bourgois.
L'historien Benjamin Stora est l'invité de la grande table pour son dernier essai 68 et après, sous-titré Les héritages égarés. C'est publié chez Stock. Arrivons-en, si vous le voulez bien, Benjamin Stora, à ces héritages égarés. On vient d'en parler un petit peu, mais il faut quand même marquer historiquement, puisque vous êtes parmi nous ce moment du milieu des années 80. C'est quoi, c'est 86, quand Jean-Christophe Cambadélis, justement, emmène avec lui quelques 400 militants de l'OCI pour, alors je sais pas si vous avez déjà parlé de cette technique de l'entrisme, en tout cas pour aller vers le Parti Socialiste, avec cette véritable conviction qu'il y a une possibilité là de changer la vie. Mais en même temps, 86, c'est aussi la cohabitation, donc c'est un timing qui peut paraître assez étrange.
Tout à fait, l'année 86, c'est intéressant parce qu'on est en pleine période de cohabitation. Donc le Parti Socialiste a une posture extrêmement critique vis-à-vis du pouvoir. Il est dans l'opposition. Donc nous, on rentre dans un parti qui est férocement dans l'opposition avec des discours extrêmement radicaux. Ben, ça nous va parfaitement. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est bien, on continue. On poursuit, dans le fond, mais dans un espace social-démocrate, mais dans des batailles contre le code de la nationalité, contre la répression, contre la réforme de Vaquet. Enfin, c'était l'année 86, quoi. Donc il y avait, par conséquent, la sensation d'une suite de batailles et d'histoires. C'était quelque chose qui nous convenait parfaitement. Mais c'est lorsqu'a commencé à se dessiner la reprise du pouvoir, c'est-à-dire les sondages, etc., que là, j'ai vu à l'intérieur de ce parti que ce parti n'était pas constitué de militants simplement, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'experts, de notables, que la question décisive, c'était les investitures et non pas les batailles sociales, et que la professionnalisation, de ce parti était extrême au sens, social du terme. Et là, effectivement, c'était plus tout à fait l'idée que je pouvais m'en faire.
Alors je vous propose d'écouter justement Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a parlé de lui, mais en 1989, il nous parle de cette première année, il fait un peu le bilan justement du retour en 88 au pouvoir du Parti Socialiste.
Tout le monde sait que le RMI c'est mieux que la loi du plus fort, que les accords de Matignon c'est mieux que la tuerie de la grotte d'Ouvéa. Ça c'est la gauche comme la France l'aime, quoi. Et puis il y a l'autre versant, c'est la gauche indolore, quoi. La gauche du consensus, qui finit par être tellement indolore qu'elle est presque insignifiante. Alors, d'un côté, on constate qu'il y a de moins en moins de monde qui se déplace pour venir voter, pour participer à la démocratie. Et puis de l'autre, on a l'impression un peu que tout ce qui bouge se passe en dehors de nous. Hein, que ce soit les mouvements sociaux avec lesquels on est plutôt dans un rapport de force que dans un rapport de complicité ou de construction commune. Et puis d'autres mouvements, comme le mouvement qui s'est formé autour des Verts, qui après tout est une, je sais pas comment on peut dire, d'essence très proche de ce que nous ressentons les socialistes. Mais ça se passe à côté. Alors ça, c'est un peu dommage. On a en gros le sentiment d'une société administrée, équitablement, plutôt bien, mais pas vraiment d'une société mobilisée. Et la gauche, c'est forcément la France mobilisée. Sinon, qu'est-ce que c'est ?
Jean-Luc Mélenchon en 1989, Benjamin Stora.
Il a raison, en 89, hein, c'est évident, mais je crois qu'il a quitté le Parti Socialiste 20 ans après. Donc c'est long quand même. Hein. Donc il porte un diagnostic tout à fait bon, tout à fait correct, entre cette France administrée sagement et équitablement d'ailleurs, et puis cette France mobilisée qui attend. Donc le délai entre la réflexion et le passage à l'acte a été un petit peu long.
Vous avez été plus rapide.
Bah moi je suis parti, effectivement, j'ai quitté le Parti Socialiste. Alors là, bon, ça renvoie, parce qu'il faut être honnête dans toute cette histoire, moi ça renvoie à une question très personnelle dans un premier temps. C'est-à-dire la maladie de ma fille en 88 et son décès en 92, ça a pris 4 ans d'une bataille contre le cancer que nous avons perdu. Et ça m'a effectivement éloigné de la politique. Ça m'a fait aussi revenir à des choses beaucoup plus importantes dans ma vie. Et là aussi, pendant ces 4 années, j'ai vécu une très grande période de solitude. C'est-à-dire que beaucoup de mes anciens camarades, qui étaient très proches de moi, se sont séparés, éloignés de moi. Eux poursuivaient des aventures personnelles ou collectives, qu'importe. Mais la solitude pendant 4 ans a été bien réelle.
Ce sont les années de la chute du mur de Berlin. Et puisqu'on parle de cette tension, justement, entre, comme dit Jean-Luc Mélenchon, entre un parti socialiste indolore et un parti socialiste qui est proche des luttes sociales, on a souvent reproché au PS de ne pas avoir fait son Bad Godesberg, vous savez, de ne pas avoir rejeté le marxisme. Et en même temps, quand on vous lit, quand on regarde cette histoire, on se dit que finalement, il l'a fait très très tôt, son Bad Godesberg, mais qu'il ne l'a pas forcément
théorisé, effectivement. C'est-à-dire que la pratique... l'exercice même du pouvoir, notamment d'ailleurs avec l'arrivée de Michel Rocard au pouvoir, hein, comme Premier ministre en 88, c'est une pratique, disons, d'une social-démocratie tranquille, très contestée d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon à l'époque, qui avait très bien compris ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire qu'on avait un exercice du pouvoir qui s'apparentait à une social-démocratie sage, libérale, et une absence de théorisation de cette pratique. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des références à Jaurès, à la radicalité, la rupture avec le capitalisme, les grandes envolées oratoires sur le... Je sais pas d'ailleurs sur quoi, mais c'était quand même très radical dans le discours. Ça restait dans les campagnes électorales, notamment. Moi, j'avais assisté à des meetings, notamment de François Mitterrand, dans les campagnes électorales, notamment de 88. J'étais complètement estomaqué, parce que c'était quasiment un appel au soulèvement, un appel au peuple. Je me disais, il manque plus que les conseillers ouvriers, quoi. C'était vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que c'était extraordinaire.
Celui qui ne conçoit pas la rupture avec l'ordre capitaliste, celui-ci ne peut pas être socialiste.
Oui, hein, des phrases extraordinaires, avec des références extrêmement radicales, dures, de séparation avec le capitalisme ou autre. Et puis ensuite, il y avait l'exercice du pouvoir, la pratique du pouvoir. C'était pas tout à fait la même chose.
Vous critiquez en quelque sorte cette évolution de la gauche et du Parti Socialiste. Vous commencez votre essai, Benjamin Stora, de manière assez cruelle sur les résultats des dernières élections présidentielles. Et vous critiquez cette évolution finalement d'abandon des classes populaires pour aller vers la défense d'une certaine classe moyenne, éduquée. Ça a beaucoup été commenté ces derniers temps, cette évolution. Ce que vous critiquez finalement, c'est quoi? C'est l'arrivée des experts, des professionnels, comme dirait l'américain Thomas Frank?
Oui, il y a de ça, bien sûr. Hein. C'est ce qu'on a appelé dans le vieux jargon des années 70 la bureaucratisation du parti. C'est-à-dire, c'est effectivement un parti politique aux mains d'experts. Ça, c'est important. Mais quand je critique la question de l'abandon des classes populaires, je parle aussi du problème des minorités. Et ça, c'est, pour moi, c'est important. Parce qu'en fait, les classes les plus populaires et les plus pauvres, dans le fin fond des banlieues, à la périphérie des villes, etc., eh bien, c'était en grande partie ces générations issues de l'immigration postcoloniale. Parce que pour moi, c'était lié, la question sociale et la question des minorités. Or, il y avait un grand mot d'ordre qui était avancé par François Mitterrand dans ses 110 propositions de 81, c'était le droit de vote pour les immigrés. C'était ça qui était avancé quand même. Il faut pas l'oublier. Ça est complètement oublié aujourd'hui. Hein. Or, les années passées ces jeunes issus des immigrations dites postcoloniales ne voyaient jamais leur père voter. Ils les ont d'ailleurs jamais vus voter. Et ça, c'est un très gros problème parce que on ne peut pas à la fois promettre, expliquer par rapport à ces catégories sociales particulières des années 80-90 pour ensuite s'en désintéresser et entrevoir la question uniquement sous l'angle de la rénovation des immeubles, de ce qu'on appelle la politique de la ville. Donc c'était pas tout à fait ce qu'espérait l'ensemble de ces catégories sociales.
Et puisque vous parlez de ces catégories sociales, de cette question de l'intégration, une certaine forme d'abandon du Parti Socialiste, je voulais avoir votre sentiment sur une polémique récente, faisons un saut dans le temps si vous le voulez bien, Benjamin Stora, cette polémique qui a entouré l'apparition dans une interview de Mariam Pouchetou, qui est donc la présidente de l'UNEF, syndicat étudiant proche pendant longtemps du Parti Socialiste, encore aujourd'hui, qui est apparu voilé à la télévision. Donc mettons de côté les réactions islamophobes, si vous le voulez bien, parce que c'est pas très très intéressant. En revanche, il y a une vraie question qui s'est posée sur l'évolution d'un syndicat étudiant proche du Parti Socialiste, mais...
Proche du Parti Socialiste.
Hein, donc, il fut proche du Parti Socialiste, d'où l'évolution, voilà, de se retrouver finalement. Voilà. Qu'est-ce que ça dit
Ça dit énormément de choses. Là, il est 26, je crois, maintenant. Donc là, on aborde l'islam en France, donc c'est la traditionnelle dernière question des interviews. C'est
excusez-moi, ça arrive dans votre livre aussi.
Bien sûr. Non, mais ça dit quoi? Ça dit qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans dans ce pays qui veulent rester musulmans. Voilà, il y en a beaucoup qui veulent pas renoncer à leur origine. Ça, c'est certain, et on peut pas les contraindre ou les obliger à quitter leur origine. Ça, c'est la première chose. Ça fait partie de l'histoire de France d'aujourd'hui, et donc il faut accepter cela. Le fait qu'il y a plusieurs millions de personnes de culture, de tradition et de pratique. Ils sont pas tous religieux d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le port du voile peut être apparenté soit à une revendication de prosélytisme politique, l'islam politique, l'islamisme, ça c'est évident, soit ça peut être apparenté à une conviction personnelle. Comment savoir et tracer la frontière entre les deux, c'est très compliqué. C'est pas simple. Celui qui arrive à tracer cette frontière, bravo. Parce que entre le prosélytisme politique et la question de la conviction intime et personnelle, c'est pas évident. Enfin, troisième aspect, c'est à l'UNEF de décider. C'est à l'UNEF de décider quels sont ses porte-paroles. C'est au syndicat de décider. Vous savez, il y a eu cette polémique déjà, cette discussion, lorsqu'il y a eu le problème des salles de prière dans les usines. Avec la question de la CGT. Mais ça, c'est déjà une vieille discussion. C'était déjà il y a 20 ou 30 ans. C'était est-ce qu'il y a la possibilité, disons, de prier ou pas à l'intérieur du lieu de travail, etc. C'est-à-dire qu'en fait, moi, la question plus générale, c'est l'empiétement du religieux dans l'espace public. Ça, c'est pour moi la vraie question. C'est-à-dire que, est-ce que, dans le fond, on va pouvoir avoir un espace public qui reste laïque et non religieux, ou est-ce qu'au contraire, il y aura progressivement un empiètement du religieux sur l'espace public? C'est une vraie question, une vraie bataille, mais qu'on ne peut mener qu'en respectant les croyances de chacun.
Vous voyez, vous avez quand même le temps de répondre, Benjamin Stora, malgré cette question de 12h26. Voilà. Antoine, merci, une ultime question.
Oui, peut-être pour conclure, parce qu'on a fait l'itinéraire de la gauche, vous nous avez fait traverser tout un pan de temporel très important, et puis aujourd'hui quand même... Qu'est-ce qui se passe à gauche? Est-ce que quelque chose existe encore? Est-ce que ça bouge encore?
Ce grand cadavre à la renverse, disait un certain Bernard-Henri Lévy.
Ouais. Non, il y a une gauche qui existe, c'est certain. On l'a vu dans la rue, par exemple. Hein. Le problème, c'est qu'à mon sens, c'est tout un avis tout à fait personnel, parce que vous le savez, je reste très attaché quand même à la gauche. Je pense que la gauche aurait intérêt à ne pas rester enfermée dans un ghetto, c'est-à-dire des fameux 30 000, 50 000 manifestants de certaines catégories sociales. Il faut aller à la conquête de nouvelles catégories sociales, et en particulier de cette fameuse jeunesse dont je parlais tout à l'heure, qui était absente dans ces manifestations de la gauche traditionnelle, qui était absente. Et la gauche ne pourra reprendre le pouvoir que si elle sort d'un ghetto politique et idéologique, qu'elle s'ouvre à la société réelle et à tous les nouveaux enjeux de la société d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'elle en prenne conscience aujourd'hui, qu'elle réfléchisse sur elle-même.
Sacré travail, sacré programme, Benjamin Stora, 68 et après, les héritages égarés, c'est donc publié chez Stock. Merci d'être passé par la grande table pour en parler. Je pense que ça viendra clore un petit peu cette longue séquence de commémoration de mai 68. Merci également à toute l'équipe de la grande table, Claire Maillot, Clémence Marie, Henri Leblanc, Maxime Morin, Émile Boutelier et Liana Valken. À la réalisation aujourd'hui, c'était Perret Legras, à la prise de son Bruno Gagnère Fontanil. Dans quelques instants, ce sera Les Pieds sur Terre.